Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle émission de Paroles de témoins, émission où des gens tout à fait ordinaires viennent partager leur expérience de conversion au Christ Jésus, comment est-ce qu'ils ont été appelés à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Danny Asselin de la grande région de Québec qui travaille à Poste Canada. J'ai oublié de me présenter, mon nom est Jacques Pelletier, je suis le pasteur de l'Église réformée baptiste de la capitale. Et donc Danny, je vous salue chaleureusement.
Bon matin.
Merci d'être avec nous dans les studios de Ces Fois. Donc Danny, vous êtes chrétien bien sûr depuis plusieurs années, vous êtes né à Albanel au lac Saint-Jean, vous avez un frère... qui a un an et trois mois, qui est d'un an et trois mois plus jeune que vous. Et lorsque vous étiez tout jeune, vous êtes déménagé à Chicoutimi, puis à Saint-Émile, lorsque vous aviez six ans. Et après cela, vous êtes déménagé à Duberger, donc bien sûr à Québec même. Vous aviez dix ans. Votre père a acheté une maison sur le boulevard Perle-Lièvre. En fait, je sais où ce que c'est parce que j'habite pas très très loin de là. Il avait un commerce en électronique. Et vous avez aidé votre père aussi, bien sûr, dans son travail. C'est ce que vous me partagez tout à l'heure. Maintenant, vous partagez aussi dans votre témoignage que votre père a commencé à débuter une espèce de cheminement spirituel lorsque vous étiez jeune encore.
C'est certain que dans les années 80, là, on peut dire que ça a vraiment commencé dans ces années-là. La Bible a dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Mais vous savez, les hommes y prennent bien des détours. Mon père était à la recherche de ce vide intérieur que seul Dieu peut combler. Puis il scrutait, on peut dire, toutes sortes d'alternatives, là, que ce soit raélien, l'évolution dans ce temps-là qui était très forte au niveau des livres qui sortaient, etc. Puis je dirais qu'il aimait bien aussi la boisson forte, puis qu'il avait un langage ponctué de mots religieux, employé surtout comme patois, bien entendu, là. Fait que c'était un peu dans ces années-là que ça allait débuter. Je dirais que quand j'avais 17 ans, j'ai arrêté l'école aussi en plein milieu de mon secondaire 4, en plein milieu de mon secondaire 6, c'est-à-dire pour travailler au commerce de mes parents, justement, comme vous dites, pour les aider, parce qu'il y avait un commerce à Duberger. Puis dans ces mêmes années-là aussi, malheureusement, j'ai eu ma passe là, de petits joints de hache, de mescaline, mais vous savez quoi, je me suis rendu vite compte que ça ajoutait rien de très positif dans une vie, ces choses-là, parce que en prime avec ça, il y avait des pertes de mémoire, puis plusieurs désagréments qui étaient reliés à ces drogues-là, fait qu'il y avait rien de positif que ça pouvait m'apporter au niveau de la vie. En janvier 84, j'avais enfin 18 ans. Et oui, 18 ans, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire à 18 ans qui n'est pas permis de faire quand on a 17? Les bars, bien entendu. Fait que là, toujours à la recherche de ce vide intérieur, eh bien, on commence les bars le vendredi soir, le samedi soir. Mais savez-vous ce qu'on s'aperçoit? C'est que même ça aussi, c'est vide de sens. Parce que ça n'apporte rien, ça remplit pas notre vide intérieur. Puis, un coup que j'ai eu fini d'avoir ce trip-là de bars, j'ai rencontré une jeune demoiselle. Fait que c'est là que j'ai commencé des fréquentations assez rapidement avec elle. Fait que ça a été, entre autres, une chose qui a été marquante dans ma vie, le fait que je me suis attaché à cette jeune fille-là.
Donc, vous aviez 18 ans, et c'est à ce moment-là que votre père, donc vous disiez votre père était aussi en recherche spirituelle, votre père a commencé à fréquenter des déjeuners très, très particuliers, des déjeuners d'hommes d'affaires chrétiens.
Oui, oui, effectivement, mon père, vu qu'il avait son commerce, il était invité à ces déjeuners-là. En réalité, ces déjeuners-là, c'était des déjeuners où les gens ordinaires qui donnaient leur témoignage de vie, comment est-ce que, d'un certain sens, le Christ avait transformé leur vie. Pour dire franchement, je trouvais ça assez intéressant. Puis je me suis mis à fréquenter ça, disons, assez régulièrement. Puis entre autres, en fréquentant ça, aux alentours de décembre 84, à Noël, mon père, entre autres, nous a donné une Bible en cadeau. Puis il nous encourageait à la lire. Fait que nous autres, on trouvait ça assez bizarre, puis un trip assez bizarre. Puis on espérait que ça allait passer plus vite que ces autres trips qu'il y avait eu de raéliens ou tout ça, parce qu'on trouvait que ça commençait à faire dur, comme on dit, là.
Ça, c'est un moment tournant ça, dans votre vie, ça. C'est lorsque votre père vous donne une Bible.
C'est sûr, parce que, bien entendu, il nous encourageait à la lire. Ça fait que, puis entre autres, ce qui est arrivé aussi dans ces mêmes temps-là, c'est que mon père, aussi bizarre que cela puisse paraître, en tout cas pour lui, là, il a arrêté de blasphémer, de boire, parce que c'est un homme qui buvait beaucoup. Puis toutes sortes de choses anormales, en tout cas anormales pour lui, parce que pour lui, c'était la norme, ça.
Vous voyez donc chez votre père une transformation, OK? Donc, il vous donne une Bible, il vous encourage à la lire, vous et votre frère, mais il se met à fréquenter une église aussi. Oui. Et il vous invite à venir à l'église. En fait, je pense qu'il vous, quand je dis vous invite, c'est, il désire vous voir à l'église.
Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il s'est mis à fréquenter une assemblée. Puis là, bien entendu, en fréquentant cette assemblée-là, il était enseigné, lui. Puis là, il nous encourageait à y aller avec nos Bibles qu'il nous avait données en cadeau et à lire. Ça fait que ce qui est arrivé arriva, on s'est mis effectivement sous la pression familiale à fréquenter cette assemblée-là.
Mais là, votre père, il a changé de vie, il a changé de comportement, il n'agit plus comme auparavant, il cesse de blasphémer, il boit plus, mais ça a des répercussions aussi sur le reste de la famille, sur la manière de vivre à la maison.
C'est sûr que là, on a eu quelque chose qui a été marquant. C'est qu'il nous a interdit, à moi et à mon frère, d'amener nos blondes à la maison. Ça fait que là, c'est certain que pour nous, c'était comme inconcevable. Fait que vous pensez bien qu'avec ce nouveau mode de vie-là, on n'est pas resté à la maison.
On comprend que c'est pas quand vous dites qu'il vous a interdit d'amener vos blondes à la maison, c'était pas pour souper, là.
Non, c'est ça. Effectivement, c'était pas pour souper. Pour souper, on avait encore des invitations.
Ouais. Comment est-ce que vous avez réagi à cela, Danny?
C'est certain que la réaction a été, je dirais, assez brutale, dans le sens qu'on a quitté rapidement, on s'est pris un logement et on a quitté ma blonde et moi pour s'en aller demeurer en appartement. Okay. Parce que pour mon frère et moi, en réalité, c'était comme devenu insoutenable. Et puis, bien entendu, mon père se faisait insistant sur plusieurs points des Écritures. Fait que à la maison, c'est ça, c'était rendu vraiment insoutenable. Il n'y avait pas d'autre chose à faire que de quitter.
Donc, vous avez quitté pour demeurer malgré tout en paix. Vous visitiez quand même vos parents et vous continuez à fréquenter l'église aussi. Donc, vous alliez, si je comprends bien, là, si on veut, on récapitule le tout, vous fréquentiez les fameux déjeuners d'hommes d'affaires chrétiens, vous lisiez la Bible, vous alliez à l'église. Et là, il s'est passé quelque chose.
C'est certain que en ayant tout ça qui était là présent, comme vous venez de dire, avec du recul, on voit, parce que la Bible a dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Puis, est-ce qu'on peut vraiment croire à quelque chose qu'on ignore totalement? Avec du recul, j'ai compris ça. Puis, je me suis mis à comprendre plusieurs choses, graduellement, échelonné sur plusieurs années. Ça s'est pas passé juste dans une semaine, ces choses-là. À force de fréquenter les déjeuners, l'école du dimanche, l'église, lire les Écritures, je me suis mis à réaliser qu'on meurt une seule fois. Car la Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. J'ai compris aussi que les âmes sont immortelles. La Bible a dit qu'ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Ça fait que là, il y avait des petites lumières qui s'allumaient dans ma tête.
Donc, qu'après la tombe, la tombe est là, c'est une réalité, puis après la tombe, il y a autre chose. Ça ne s'arrête pas là.
C'est ça. Il y a deux façons que Dieu va voir les êtres humains. C'est ça que je comprenais. Juste puis injuste. Ça fait que je réalisais que la marge d'erreur était mince, là, dans le sens qu'il fallait savoir si on était juste ou injuste. Puis, en même temps, je réalisais, plus je lisais les Écritures, que moi, j'avais péché. Ça ressortait des Écritures puis des enseignements que j'avais. Comme il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Puis ça, je réalisais que ça m'incluait, là. Puis que nul n'est intelligent, puis nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, comme la Bible dit, puis il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Fait que ça veut dire que j'étais inclus là-dedans. Puis ça, je réalisais bien ça.
Donc, si je comprends bien, Danny, c'est que vous vous trouviez à ce moment-là exposé à la parole de Dieu. Que ce soit par le témoignage de croyants, que ce soit en fréquentant une église chrétienne où la Bible était prêchée et enseignée, que ce soit par vos lectures personnelles, vous étiez en train de prendre conscience de choses sur lesquelles vous n'étiez pas nécessairement arrêté par le passé. Hein? Et comme je pense que vous l'avez bien dit, la foi vient de ce qu'on entend, l'importance justement de connaître ce message-là, de connaître ce que Dieu a à nous dire par sa parole. Mais ça s'arrête pas là. Vous avez été conscientisé, mais ça s'est pas arrêté là. Hein, il s'est passé quelque chose de très, très particulier. En fait, c'est vraiment le moment décisif dans votre vie. Ça s'est passé le 10 mai 1987, hein, où vous êtes allé à l'église. En fait, c'était déjà devenu jusqu'à un certain point une habitude. Mais il y a une différence entre aller à l'église pour écouter, hein, puis peut-être, on est en recherche, ça nous fait un certain bien, mais il y a une différence entre assister à l'église, fréquenter une église, lire la Bible et le fait de devenir chrétien. C'est pas la même chose. Et c'est ça que votre témoignage, en fait, ce sur quoi votre témoignage nous éclaire. Donc, il y a cette fameuse date-là, le dimanche 10 mai 1987, s'est passé quelque chose de très, très particulier dans votre vie.
C'est sûr. C'est sûr que, en réalité, si quelqu'un m'avait dit ce que je ferais à la suite de ce qui s'est passé le 10 mai, s'il m'avait dit ça le 9 mai, ce que j'allais faire, je l'aurais traité un peu de fou, parce que c'était un peu fou selon le monde, un peu ce qu'on peut dire. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'effectivement, ce 10 mai-là, je vais à l'assemblée, puis il y avait un message. Puis je me rappelle pas des détails précis de ce qui était prêché, mais je me souviens de ce que j'ai compris, par exemple, que tous ceux qui ne se confiaient pas en Jésus pour recevoir le pardon de leurs péchés vont automatiquement dans un lieu de tourment éternel. Je me souviens pas si ce passage-là que je vais vous citer faisait partie vraiment du message, mais en même temps, ça reflète bien ce que j'ai compris. C'est l'histoire de Lazare puis de l'homme riche. Ça dit ceci dans les Écritures, ça dit « Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. » Puis là, il dit quelque chose d'important, « Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Puis Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Puis ça, c'était quelque chose. Je réalisais qu'on pouvait pas passer du ciel à l'enfer. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Vous savez?
Peut-être juste, Danny, pour les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne connaissent pas cette portion des Saintes Écritures, en fait, de l'Évangile de Luc, il y fait référence, c'est le Seigneur Jésus qui fait référence à un riche qui a vécu sans Dieu. Hein, et quand on dit qu'il a vécu sans Dieu, même qui ne portait pas d'intérêt même aux gens autour de lui, même au pauvre Lazare, et qui est mort subitement, et il nous est dit qu'il est allé dans un lieu de tourment et de souffrance, justement parce qu'il vivait sans Dieu, hein, et alors que Lazare, lui, attendait la consolation divine, et malgré sa pauvreté, alors la question ici n'est pas si c'est bien d'être riche ou pauvre, c'est l'idée en qui est-ce qu'on met notre confiance et pour qui est-ce qu'on vit. Alors Lazare, du point de vue humain, ne possédait rien, mais il possédait tout parce qu'il possédait justement le salut qui est en Christ. Hein? Mm. Okay. Et donc, on peut dire déjà qu'à ce moment-là, lorsque vous avez entendu cela, c'est que déjà vous considériez la Bible comme un livre très, très important dans votre vie.
C'est sûr. C'est sûr que je réalisais que avec ce passage-là, ce que ça nous montrait, c'est qu'il n'y a rien de plus puissant que la parole de Dieu pour convaincre les cœurs de péché, de justice, de jugement. Puis c'est vraiment ce que Dieu a fait ce matin-là dans ma vie, c'est qu'il m'a montré que mon péché me donnait des conséquences d'un certain sens, c'est d'aller dans un lieu de tourment éternel parce que j'étais coupable devant Dieu. Ça, je réalisais ça.
Est-ce que, donc, et donc, vous, si vous étiez coupable devant Dieu, ça veut dire que vous réalisiez que vous transgressiez les commandements de Dieu, que vous ne viviez pas pour Dieu, que vous viviez de façon opposée à la volonté de Dieu. OK, donc vous étiez conscientisé puissamment ce matin-là devant cette réalité-là, mais est-ce qu'il y a eu combat? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que vous êtes levé en disant, désormais, moi, je suis un chrétien?
Non, non. Je dirais que c'était comme un appel irrésistible. C'était vraiment, Dieu est venu saisir mon cœur en me montrant mon état. Et puis, j'avais besoin quand même qu'on me guide parce que je réalisais mon état. Je réalisais que ça me menait dans un lieu de tourment éternel. Puis, pour moi, un lieu de tourment éternel, c'était trop long. Il n'y a pas personne qui est masochiste puis qui veut s'en aller volontairement dans un lieu de souffrance éternelle là. Et je veux dire, fait que Dieu vraiment me convainquait ce matin-là de ça. Puis en même temps, je réalisais une chose, c'est que je pouvais pas de moi-même parce que je faisais éliminer cette situation-là. Je réalisais ça. Il y avait vraiment un combat dans mon cœur.
Je sais que vous avez déjà donné votre témoignage à plusieurs reprises, Dani, à plusieurs endroits aussi. Vous faites référence, bien sûr, à une solution. Parce que quand vous dites que vous perceviez donc comme perdu devant Dieu, hein, comme méritant sa condamnation éternelle, vous faites référence à un lieu de tourment, en fait, ce qu'on appelle l'enfer. Hein, et on ne peut pas passer à côté de cette vérité biblique. C'est vraiment dans la Bible. Il y a des gens qui pensent que c'est une invention humaine, une invention de l'Église, une tradition de l'Église, mais c'est vraiment la Bible qui atteste l'existence de ce lieu-là. Le Seigneur Jésus en a parlé lui-même. Il en a parlé dans le texte que vous avez cité, concernant le mauvais riche et Lazare. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Elle ne fait pas juste parler de l'enfer. Elle nous parle d'une solution aussi, d'un salut possible.
Oui, puis c'est ça que j'avais comme besoin d'être, je dirais, guidé. Guidé, à la fin de ce message-là, on était invité à avancer pour que les gens répondent plus à nos questions. Puis un homme qui m'a pris à part, puis qui m'a vraiment guidé, je dirais, au pied de la croix. Parce que je comprenais l'état de mon cœur, puis où est-ce que ça m'amenait, mais en même temps, j'avais besoin d'être guidé au moyen de salut. Puis cet homme-là m'a vraiment expliqué un peu ce que Jean 14, 6 dit. C'est Jésus qui parle, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Puis c'est vraiment ça que j'avais besoin, c'est d'être guidé pour passer d'un certain sens de la mort à la vie. Un verset aussi qui m'a beaucoup parlé, c'est Jean 5, 24 qui dit « en vérité ». Fait qu'on voit que c'est répété deux fois, faut porter attention, je vous le dis. « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Puis ça, c'est ce que je voulais vraiment, moi. Passer de la mort spirituelle à la vie éternelle. Je voulais certainement pas aller dans un lieu de tourment éternel. C'était, comme j'ai dit, c'était vraiment, mais vraiment trop long pour moi. Puis le moyen, c'était le sang précieux de Jésus pour obtenir le pardon de mes péchés. Puis c'est ce que j'ai fait ce matin-là.
Si je comprends bien, Dani, donc, vous êtes passé d'un état d'ignorance en ce qui concerne l'Évangile à sa connaissance. C'est-à-dire que, et tout cela, bien sûr, ça a pris un certain temps, mais ça a été permis par le fait que vous avez commencé à ouvrir la Bible, vous avez fréquenté des milieux chrétiens, dont une église, et de là, je pense, l'importance, hein, même pour les gens qui nous écoutent, qui peut-être ont des questions au niveau spirituel, sont en recherche, se posent des questions sur le sens de leur vie, sur leur futur, sur qu'est-ce qui se passe après la mort, etc., l'importance d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'Église du Christ, qu'est-ce que la Bible dit d'ailleurs sur cette question-là, et peut-être même de persévérer pendant un certain temps. même si on ne comprend pas tout, parce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que quand vous avez commencé, vous avez débuté, vous ne compreniez pas tout, là. Vous étiez peut-être un peu curieux. Bon, votre papa aussi a mis un peu de pression, mais en fait, c'est une bonne pression dans votre cas, je pense, ça a porté de l'excellent fruit. Mais la lumière a commencé à se faire, justement, alors que vous fréquentiez l'Église du Christ et que vous ouvriez la parole de Dieu. De là l'importance de la Bible, d'ailleurs.
C'est sûr. En réalité, j'ai réalisé que, d'un certain sens, avant qu'on se convertisse, c'est comme si on a un voile, hein, on est voilé. Puis, d'un certain sens, c'est ce que les Écritures disent. Hein. Les Écritures disent que ce voile-là disparaît en Jésus-Christ. Puis, un fait marquant qui est arrivé cette journée-là, quand je me suis converti, l'homme, un coup que mon cœur s'est tourné vers le Seigneur, puis que j'ai vraiment donné ma vie à Christ, l'affaire que j'ai réalisée, c'est que dans ma Bible, exemple, il y avait un verset que je me rappelle encore, c'est 1 Jean 5, 12, 13 qui dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Il me fait lire ce verset-là. Puis j'avais l'impression que je le lisais pour la première fois, parce que là, je comprenais profondément le sens de ce verset-là. « Celui qui a le Fils a la vie. » Puis je réalisais qu'avant, je l'avais pas, cette vie-là. Puis que là, je la possédais en Christ. Puis j'ai réalisé en même temps que dans ma Bible, il y avait un point rouge. Je l'avais déjà lu, mais c'est comme si je le lisais pour la première fois. Le voile était enlevé. Je le saisissais parce que j'avais expérimenté vraiment la connaissance du Fils de Dieu d'une façon profonde, pas juste intellectuelle. Les gens, ils connaissent que Christ est mort à la croix, mais moi, il était mort pour moi. Je m'étais approprié ça.
Mais Danny, si quelqu'un qui nous écoute se pose la question suivante. Ce monsieur vient de nous dire qu'il n'avait pas la vie, que maintenant il a la vie. Mais je suis en vie. De quelle vie est-ce qu'il s'agit?
C'est vraiment, d'un certain sens, c'est spirituel que ça se passe. Parce que la Bible a dit qu'on est mort spirituellement. Hein? C'est ce qu'on a cité tantôt, plusieurs versets qui nous montrent qu'on est mort spirituellement. Puis qu'on a besoin d'un certain sens, de naître de nouveau ou de naître d'en haut. Puis c'est ce que j'ai expérimenté ce 10 mai-là. C'est que d'un certain sens, c'est que j'ai réalisé que je pouvais pas me sauver moi-même, mais que Christ avait tout accompli. Fait que c'est ça qui s'est passé ce 10 mai-là. C'est qu'en réalité, c'est que j'ai pris les Écritures au mot, ou j'ai pris Christ au mot. Jésus, il a dit « Je suis le chemin ». Il a pas dit « Je suis un des chemins ». Il a dit « Je suis le chemin ». Il dit « Je suis pas une des vérités ». Il dit « Je suis la vérité ». Puis il dit « Si vous saisissez ça, vous aurez peut-être la vie ». Il dit « Non, non, non ». Il dit « Si tu me prends au mot, je te donne la vie. » Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le Seigneur Jésus au mot. Je me suis approprié son sacrifice.
Maintenant, Danny, merci Danny. Vous nous avez parlé, bien sûr, en fait, de conviction, hein, d'avoir transgressé la loi de Dieu, donc d'avoir péché contre Dieu, d'avoir vécu sans Dieu, même opposé à Dieu, le fait qu'il vous a appelé à lui par sa parole, vous vous êtes converti au Christ, vous avez reconnu dans le Seigneur Jésus-Christ le seul unique sauveur, hein, par lequel on peut justement nous approcher du Père, être réconcilié avec lui, tout cela. Maintenant, et vous avez fait référence aussi à cette vie nouvelle que vous avez reçue, hein, en fait que vous avez saisie aussi, hein, qui est un don que Dieu nous donne, qui vous a transformé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement, dans la vie de tous les jours? Parce que vous avez fait référence, à certains comportements, là, lorsque vous étiez plus jeune. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a fait un changement dans votre vie? Parce que être chrétien, est-ce que ça veut dire juste adhérer à une certaine doctrine? Est-ce que ça implique pas l'idée aussi d'un certain changement dans notre manière de vivre, de penser bien sûr premièrement, mais dans notre manière de vivre?
C'est certain. Je dirais que ce 10 mai 1987 là, j'ai fait un 180 degrés. Parce que c'est ça un peu une conversion, hein, un 180 degrés. Je vous disais que je vivais en appartement avec ma blonde. Puis pour moi, je réalisais tellement la situation de mon état de vie que la journée même, j'ai pris action avec mes parents pour que moi je puisse rester à l'appartement seul et qu'elle et que ma blonde actuelle reste chez eux. Parce que je voyais que cette façon de vivre était incompatible avec ce que je venais de prendre comme profession de foi dans le sens de suivre le Christ. Ça fait que il y a ça aussi, j'étais quelqu'un qui disait quelques mots, un blasphème. Ça aussi, c'était incompatible, cette façon-là de parler avec ce que je venais de prendre comme décision de suivre le Seigneur coûte que coûte. Ça fait que c'est des choses qui ont changé radicalement au niveau de ma vie, je dirais immédiatement là.
Donc, Danny, si je comprends bien, vous vous êtes le commandement du Christ hein, qui vous êtes repenti de vos péchés. Ça fait partie de selon ce que vous êtes en train de nous partager, ça fait partie intégrante de la conversion, ça. Non seulement de croire que Christ a donné sa vie pour nous, qu'il est le Sauveur, mais nous devons changer de vie aussi.
Exactement. Puis beaucoup de choses ont changé. Je dirais un amour des Écritures aussi qui est venu présent. Lecture des Écritures, changement d'écoute de musique. J'écoutais du heavy metal, puis ça aussi c'était comme incompatible cette musique-là avec avec ce que je lisais puis ce que je voulais faire de ma vie. Ça fait qu'automatiquement, ça aussi ça a été une transformation. Amour aussi des frères et sœurs en la foi. J'étais, je dirais, drôlement bien dans la communauté évangélique, dans le sens que j'avais un amour des Écritures, je voulais en savoir plus, j'avais toujours soif de connaître.
Vous aviez de nouveaux intérêts.
Oui, oui.
Danny, merci beaucoup d'avoir accepté comme cela de venir nous partager votre expérience de conversion au Christ Jésus. C'est très, très intéressant. J'espère bien sûr que parmi les gens qui nous écoutent, que certains seront touchés, interpellés, hein, et peut-être même que certains pourraient commencer peut-être à fréquenter même une église chrétienne, une église évangélique, ouvrir la Bible, commencer à faire la lecture des Saintes Écritures, justement pour recevoir cette lumière-là, comme vous l'avez vous-même reçue, hein, commencer à fréquenter cette parole, c'est extrêmement dangereux, si vous me permettez l'expression, de vivre une expérience de conversion. Hein, peut-être, Danny, j'aimerais peut-être terminer en vous demandant si vous aviez quelque chose à dire à nos auditeurs, nos auditrices, avant de terminer cette émission, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire?
J'aimerais leur dire, vous savez, quand on côtoie les Écritures, quand on côtoie une église évangélique, on entend des choses qu'on n'a jamais entendues avant. Parce que la Bible, c'est la révélation de Dieu pour l'être humain. C'est lui qui nous a créés. Il sait de quoi nous sommes faits. Puis vous savez, le Créateur, et il sait comment qu'on doit vivre pour être heureux. Puis je dirais que l'homme, il est fait à l'image de Dieu. Puis il y a un vide intérieur que juste Dieu qui peut combler. Puis si on le connaît pas, il reste toujours un vide. Et puis on le cherche dans toutes sortes de choses. C'est pour ça que les gens ils cherchent toutes sortes de solutions, puis qu'ils vont dans les drogues comme j'ai fait quand j'étais jeune, puis dans toutes sortes de religions. Mais le véritable Dieu, on peut le connaître dans les Écritures. Puis il s'est révélé en Christ aussi. Emmanuel, Dieu est venu parmi nous.
Merci Danny. Je pense que vous aimeriez que ça continue à jaser, hein.
C'est... Oui.
J'aimerais peut-être juste souligner encore une fois l'importance, parce que c'est ce qui me fera dans votre témoignage. Enfin, il y a plusieurs choses qui me feront dans votre témoignage, mais oui, fréquenter l'Église, lire la parole de Dieu, effectivement, fréquenter les croyants, mais il faut aller plus loin que cela. Il faut se tourner véritablement vers le Christ. Il ne faut pas s'arrêter une fréquentation. Hein? Il faut littéralement se marier avec le Christ. Il faut entrer dans l'alliance. Il faut se convertir. Il faut se consacrer. Il faut lui donner notre vie et pour pouvoir expérimenter ce que vous avez expérimenté et pour pouvoir jouir de cette certitude que vous avez, Danny, n'est-ce pas, de posséder la vie éternelle, d'être en route vers le ciel. D'être agréé de Dieu, non pas sur la base de vos propres mérites personnels, mais parce que le Christ lui-même vous a racheté. Merci beaucoup encore une fois, Danny. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Chers amis qui étaient à l'écoute de cette émission, c'est déjà terminé. Merci d'avoir été avec nous encore une fois. Que le Seigneur puisse bénir ce qui a été partagé lors de cette émission. Bénir votre cœur avec tout cela. Et au plaisir de se retrouver sur les ondes de ces fois à une nouvelle émission de Paroles de témoins.